Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 33 de notre deuxième série, l'importance de la rédemption. Nous aurons quelques petites études. Nous commençons par semblable au modèle. Être semblable au modèle. Première petite méditation. Elle est tirée de Hébreux, chapitre 8, verset 5. Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est ici le commandement de Dieu pour la construction du sanctuaire dans lequel il voulait habiter au milieu de son peuple. Ses instructions étaient très précises. Plusieurs fois, Dieu rappelle à Moïse qu'il doit construire, oui, construire selon le modèle, car il a reçu tout à fait par l'Esprit Saint pour faire le modèle qu'il avait montré pendant sa retraite de 40 jours sur la montagne sainte. Il a reçu cela sur cette montagne sainte. Exode chapitre 25, verset 9 et verset 40. Vous pouvez ajouter le chapitre 26, verset 30 et le chapitre 27, verset 8. J'ai dit Exode 25. Je ne sais pas si j'ai dit correctement le verset. J'essaye de le redire. Plusieurs fois, Dieu rappelle à Moïse qu'il doit construire selon le modèle qu'il avait montré, que Dieu lui avait montré pendant sa retraite de 40 jours sur la montagne sainte. Donc, le tabernacle est décrit 7 fois dans l'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau. Vous pouvez vérifier vers les Épîtres aux Hébreux. Ce qui nous montre combien Dieu tenait à ce que son sanctuaire fût construit tout à fait selon ses instructions. Quand les travaux furent terminés, Moïse est venu et il examina toute la construction et les ustensiles, et voici, tout était fait comme l'Éternel le lui avait ordonné. Les ouvriers l'avaient donc construit d'après le modèle, et Dieu le bénit. Puis, ensuite, le tabernacle fut dressé et la gloire de Dieu remplit la demeure. Pourquoi ? Parce qu'elle était construite selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne. Si un seul ordre aurait été enfreint ou une toute petite partie oubliée, la gloire de Dieu n'aurait pas couronné l'ouvrage. La sainte parole de Dieu nous dit que toutes choses dans l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction et notre édification, et dans ces ombres, dans ces types, dans ces images, nous trouvons les vérités du Nouveau Testament. Dans ce Nouveau Testament, nous voyons aussi que Dieu veut habiter parmi les hommes, non pas dans un tabernacle construit de main d'homme, ni dans un temple construit de pierre, mais dans son Église. L'Église dans le dessein de Dieu est sa demeure, c'est ça sa demeure, c'est son sanctuaire sur la terre. Et dans sa sainte parole, il nous a donné un modèle pour sa construction. Il nous donne de voir sa conception de son habitation spirituelle. Quand nous examinons les soi-disant églises et que nous les comparons au modèle divinement établi par le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, nous sommes obligés de constater qu'elles sont construites selon les idées humaines. Ces idées sont faussées au travers des siècles et qu'elles sont loin d'être selon le modèle. Oh oui. Et nous nous demandons pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas parmi nous. La raison est facile à trouver. Retournons un peu au modèle divin et la gloire descendra si nous retournons à ce modèle. Mais voilà, il faut y retourner. L'apôtre Paul nous montre que l'Église de Dieu doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais aujourd'hui, on ne veut rien savoir du ministère apostolique ni du ministère prophétique, disons que ces ministères ont cessé avec la clôture du canon des Saintes Écritures. Si cela est, l'Église d'aujourd'hui manque du fondement établi et décrété par Dieu. Le fondement doctrinal nous est donné dans Hébreux chapitre 6, verset 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Toutes ces choses sont dans le fondement donné, non sur la montagne, mais par le Saint-Esprit aux apôtres. Voyons comment les apôtres plaçaient les pierres vivantes dans l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, en réponse à la question « Homme, frère, que ferons-nous ?» Il fit connaître tout le conseil de Dieu et la conversion, le baptême d'eau et le don du Saint-Esprit ont trouvé une place dans sa réponse. Oui, 3000 hommes ont reçu la parole de Dieu et ont été baptisés le même jour dans l'eau. Ah oui, ça c'est le baptême par immersion. Et probablement dans le Saint-Esprit. Et ils furent tous ajoutés à l'Église. Aujourd'hui, nous voyons un certain nombre de conversions, beaucoup moins de baptêmes d'eau et encore moins de baptêmes dans le Saint-Esprit. Si nous voulons rester fidèles au modèle, il doit y avoir le même nombre de conversions de baptêmes d'eau et de baptêmes dans le Saint-Esprit. Examinons un peu ensemble l'évangélisation de la Samarie par Philippe, le modèle de tout évangéliste. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 12, « Mais quand ils ont cru à Philippe, Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes, femmes, tous se sont fait baptiser. » Mais l'œuvre n'était pas terminée et il fallut la finir avec le ciment céleste qui est le Saint-Esprit. Et pour cela, l'Église de Jérusalem envoya Pierre et Jean qui imposèrent les mains pour la réception du Saint-Esprit, chose évidemment importante aux yeux des apôtres pour la construction de l'Église. Voyons aussi le cas de Saul de Tarse. Il était brisé dans sa chambre à Damas. Oh oui, quel était le dessein de Dieu pour lui? C'était le recouvrement de la vue, c'était le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Actes, chapitre 9, versets 17 à 19. Voyons aussi l'entrée des païens dans l'église chez Corneille, le centenier romain, Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Avec tous, qu'ils soient païens ou juifs, nous voyons la doctrine des baptêmes. La sainte parole de Dieu, l'évangile, est pour chaque créature. Et comment ? Et elle est le modèle, et ce modèle est le même pour tous les âges. Dieu ne change pas. Ses instructions n'ont pas changé. Les gens religieux de n'importe quel milieu sont identiques aux juifs des premiers siècles. Les mondains d'aujourd'hui ressemblent aux païens auxquels l'apôtre Paul avait affaire pour obéir à la sainte parole de Dieu. Nous devons les traiter de la même manière que nous enseigne le modèle. Voyez quelle importance l'apôtre Paul donnait au baptême de l'Esprit-Saint. C'était évidemment pour lui le mot de passe. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Telle est la question que l'apôtre posa aux Éphésiens. Fidèle au modèle que Dieu lui avait montré, il leur imposa les mains. Le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Nous constatons aussi que l'apôtre Paul ne considérait les églises comme ayant reçu pleinement la bénédiction que lorsque elles possédaient les dons spirituels. Il écrit du reste ceci aux chrétiens de Rome. « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Ou plutôt, écoutez, Romains chapitre 1, verset 11, pardonnez-moi. Donc, je répète ce verset de Romains chapitre 1, verset 11. Il est dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Ensuite, vous pourriez noter quelques indications bibliques intéressantes telles que Romains chapitre 8, Galates chapitre 3, verset 2, Éphésiens chapitre 1, verset 13, Colossiens chapitre 3, verset 16 et ajoutez 1 Thessaloniques, chapitre 1, verset 5. Les épîtres ont été écrites aux chrétiens baptisés d'eau, ainsi que à ceux qui avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, comme il est écrit dans de nombreux passages. Posons bien le fondement et ensuite tendons à la perfection. Voilà l'ordre divin. Et je suis persuadé que nous n'aurons la pleine manifestation de la gloire de Dieu que lorsque sera ôtée de notre esprit toute crainte humaine, toute idée humaine, alors nous bâtirons exactement selon le modèle de la parole de Dieu. Pour arriver à la vie manifestée dans les épîtres, il faut passer par les expériences décrites dans les Actes des apôtres. Il est bien difficile aux chrétiens qui n'ont pas reçu les grâces de la foi que les deux baptêmes donnent, le baptême d'eau et de l'Esprit Saint, et permettent ainsi de vivre une vie chrétienne selon le modèle qui nous est donné, voyez-vous ? Donc, nous arrivons à notre deuxième petite méditation. Nous pourrons donner le titre « La Pentecôte ». Ça se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, et vous pouvez lire jusqu'au verset 17. Donc, tout d'abord, examinons ensemble ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Il y a eu le vent Ensuite, il y a eu les langues de feu. Et enfin, il y a eu le parler en langue. Le Saint-Esprit fut donc répandu selon le dessein éternel de Dieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Actes chapitre 2, verset 2. Jésus en avait déjà parlé. N'avait-il pas dit à Nicodème, dans Saint Jean chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Cela signifie que l'on ne peut naître de nouveau sans l'action de l'Esprit Saint, car c'est lui que le vent représente. La Sainte Parole de Dieu possède en elle-même la puissance de nous régénérer. Mais pour naître de nouveau, il faut que cette parole soit appliquée à notre cœur par le Saint-Esprit. Et là où l'Esprit Saint est absent, il est hélas impossible que les gens naissent de nouveau. La nature elle-même nous montre que le vent est indispensable pour apporter la semence, et cela en vue de la fécondation. S'il n'y a pas de vent, la fécondation ne se produit pas. Ainsi en est-il dans la vie chrétienne. Si le vent ne souffle pas, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de guérison et il n'y a pas d'âme sauvée. Le Seigneur disait à Nicodème, « Le vent souffle où il veut. Il ne souffle pas selon notre désir, mais il souffle selon la volonté de Dieu. Nul ne peut maîtriser le vent. De même, nous ne pouvons chercher à diriger l'œuvre de l'Esprit Saint, car il est souverain. Mais de même, que quelques techniciens de la météo parviennent à établir certaines lois en ce qui concerne les vents, si nous observons la Sainte Parole de Dieu, nous découvrirons certaines règles très importantes. Il viendra comme le vent dans la mesure où nous nous soumettrons à ces règles. Alors, nous aurons le vent en poupe. Nous désirons avec ardeur que le vent souffle dans nos églises pour y déposer dans les cœurs la Sainte Parole. Alors il se produira de nombreuses nouvelles naissances. Il n'est pas nécessaire d'être à genoux pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas une obligation. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient paisiblement assis dans la foi et dans la prière. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 3, « Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Certaines personnes font l'objection suivante. Ils disent, vous avez le parler en langue, mais nous n'avons pas vu des langues de feu se poser sur vous. Or, il y avait des langues de feu le jour de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors, cherchons la réponse dans la Sainte Parole de Dieu. Lorsque Saint Paul a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas question non plus de langue de feu. D'autre part, dans la chambre 10, plutôt dans le chapitre 10, pardonnez-moi, dans le chapitre 10 du livre des Actes, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui ont écouté le message de l'apôtre Pierre. Il n'y a aucune apparition de langue de feu. Mais par contre, le parler en langue a été considéré comme le signe de leur baptême dans le Saint-Esprit. Donc, Dans notre expérience, nous avons connu des personnes sur lesquelles se sont posées des langues de feu, particulièrement un frère dont je voudrais dire brièvement les grands traits de son expérience. Il s'agit là du pasteur Barat, appartenant à l'église méthodiste à Oslo, en Norvège. On peut le considérer personnellement comme un apôtre du 21e siècle. Ce frère partit aux États-Unis pour faire des collectes. Mais voilà qu'à New York, il rencontra des chrétiens qui recherchaient le baptême dans le Saint-Esprit. Il se mit à genoux et c'est là qu'il rencontra le Seigneur. Il chanta en langue pendant longtemps et des langues de feu ont été visibles au-dessus de lui par toute l'assemblée, par toute l'église. Et voici ce qui se passa ensuite. Ayant reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il oublia le motif de son voyage. Son grand désir était donc de revenir en Europe avec ce don de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a apporté la Pentecôte en Norvège, en Suède, au Danemark, en Hollande et en Angleterre. Dieu s'était donc choisi un homme pour allumer le feu de la Pentecôte dans ces différents pays, exactement comme l'avait fait précédemment David Duplessis. En Angleterre, il y a eu une mission dans une église anglicane et les chrétiens sont venus pour recevoir le Saint-Esprit. Or, cette église avait une énorme dette qui, à la fin de la mission, a été totalement payée. Et il y a une inscription qui figure sur le fond de l'édifice. Et cette inscription est la suivante. En 1908, le feu de Dieu est tombé et il a totalement brûlé la dette. Jean-Baptiste avait dit à Jésus, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Saint Matthieu, chapitre 3, verset 11. Il est donc important de souligner que le vent et le feu ne sont pas l'Esprit Saint en eux-mêmes. Ils n'en sont que les manifestations. Le Saint-Esprit est une personne, n'oublions jamais cela. C'est la troisième personne de la Trinité Sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il nous faut donc demeurer ferme, absolument ferme, sur cette glorieuse vérité. Le vent est impersonnel, ainsi que le feu. Tandis que le langage caractérise une personne. Tenons ferme pour le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit qui prouve la présence de l'Esprit. Un petit bruit ne prouve pas la présence d'une personne, mais le son de sa voix le démontre. Un vent ne peut pas s'exprimer, mais un être personnel le peut. Nous devons nous souvenir que Jésus-Christ a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. » Ça, c'est le miracle de la Pentecôte, hein, car lorsque nous parlons en langue, tout notre être se trouve engagé. Mon âme, mes sentiments, mon esprit et mes pensées, tout cela contrôle ce petit instrument de chair qui s'appelle la langue. Et lorsque nous parlons en langue, c'est l'Esprit, oui, l'Esprit Saint, qui nous donne de nous exprimer ainsi. À quoi donc servait notre langue dans le passé? Quelle grossièreté, quel blasphème n'a-t-elle pas proféré? Et j'en sais quelque chose, car j'étais pas meilleur que les autres, ou que certains autres. Mais Dieu a saisi cette langue, et lui a fait prononcer des paroles venant de lui. C'est cela, la Pentecôte. Revenons à notre texte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations, un peu de partout, qui se trouvaient là, aux alentours de Jérusalem, et au bruit qui a eu lieu, la multitude est accourue, et elle fut confondue. Pourquoi ? Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, verset 5 et le verset 6. Eh bien, ce phénomène extraordinaire était contrôlé par les auditeurs eux-mêmes. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Oui, dans notre langue maternelle même. » Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 7 et 8. Il est bien clair que ce n'était pas du charabia plus ou moins inquiétant, hein? Car sachez qu'il y a des femmes musulmanes qui parlent en langue, ou certaines sectes indiennes parlent également en langue, même des chamans du diable parlent en langue. Faisons donc bien attention de faire la différence. Les Juifs, qui étaient témoins de ces miracles, étaient souvent bilingues ou trilingues. Ils comprenaient les langues étrangères, mais aussi le message que l'apôtre Pierre leur avait adressé. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Oui, dans notre langue maternelle ? C'est ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous dans nos langues parler des merveilles de Dieu ? Actes chapitre 2, versets 10 et 11. Ils n'ont pas loué Dieu, ce n'était ni des louanges, ni une prédication, mais ils parlaient des merveilles de Dieu. Ils exprimaient ce que le Saint-Esprit leur révélait sur la personne même de Dieu et de ses merveilles, et cela dans une langue surnaturelle. Nous arrivons à notre troisième méditation qui sera la prédication pour le 21e siècle. Je désire vous parler sur ce seul mot, Jésus. Car si notre pauvre monde doit rester entre les mains des hommes encore pendant quelque temps, on est en droit de se demander ce qu'il va devenir. Je n'ai aucun espoir dans les hommes pour diriger les affaires. Les humains ont fait faillite et nous savons, nous chrétiens, que lorsque la faillite sera complète, le Seigneur Jésus viendra pour diriger toutes choses. Si le monde devait rester entre les mains des hommes, je serais pessimiste et sans espoir, tandis que je suis optimiste à 120% parce que j'attends le retour du Seigneur. Voici quelques raisons pour lesquelles je n'ai plus aucun espoir dans la race humaine. Voyez un peu le tableau qu'en trace simplement l'apôtre Paul. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. J'ai rencontré des égoïstes partout, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats, calomniateurs, ennemis des gens de bien, emportés, etc. Il faut avouer que cette liste est d'une brûlante actualité. Lorsqu'il y a un grand pourcentage de tels gens sur la terre, peut-on espérer qu'il en sortira quelque chose de bon? Certainement non. Il n'y a rien à espérer d'une telle société. Faites-vous partie de cette catégorie d'égoïstes? S'il en est ainsi, je vais vous proposer un remède. Puisqu'il n'y a aucun espoir dans les hommes, il faut tourner nos regards vers Dieu, tout simplement. Une autre chose très importante, dans Saint Luc chapitre 21, verset 25, nous pouvons lire « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens dont la seule pensée est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons, tout sera foutu ». Mais il y en a d'autres qui pensent différemment et qui réfléchissent en regardant vers l'avenir et ils se demandent ce que pourront apporter les prochaines années. Je n'ai pas dit que les prochaines années seront comme un certain Hollande pense, président de la France, que le pire est derrière nous. Oh non! Le pire est devant nous, croyez-le ou pas. Vous savez, nous avons eu autrefois la Société des Nations. Nous avons maintenant les Nations désunies. Et on n'est pas plus avancé que ça. On a la nette impression que les gouvernements, même s'ils sont 27, 28, 29 ou 30, ne gouvernent plus tellement, ou plutôt se laissent gouverner par les événements. Ce sont les événements qui décident les gouvernements à parer au plus pressé. Or, les gouvernements du monde entier sont dépassés par les événements, que ce soit en Égypte ou n'importe où. Quelque chose d'important semble s'être échappé de leurs mains. La simple raison, c'est qu'il y a là quelqu'un qui s'appelle le prince des ténèbres, l'Antéchrist, le 666. Il a tellement mélangé les cartes qu'on ne sait plus comment les disposer. Les hommes vont bientôt rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. N'est-ce pas une aberration de la part des savants d'avoir inventé la bombe atomique, la bombe H et d'autres bien pires encore, et de s'écrier maintenant « Nous ne savons pas ce qui va arriver. Oh, nous ne savons pas. » Va savoir. Il aurait été préférable d'occuper leur intelligence à beaucoup d'autres choses. Ne le croyez-vous pas? Or, voyez-vous, les puissances des cieux seront ébranlées, qu'ils le veulent ou pas, et c'est cet ébranlement ne sera autre que l'ouvrage de leurs mains. Oui, c'est eux qui vont s'autodétruire les uns les autres. Voilà donc le résultat de la civilisation et de la politique des hommes. Parlons maintenant de la finance. Écoutons la parole de Dieu. Jacques, chapitre 5, versets 1 à 3. « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viennent sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. » Jacques, chapitre 5, versets 1 à 3. Et il est dit « Malheur à ceux qui ont amassé des trésors pour les derniers jours. » Arrivons maintenant au chapitre des conflits sociaux. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. On peut dire, ils crient, ces ouvriers-là. Et les cris des moissonneurs sont également parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques, chapitre 5, verset 4. Voyez-vous, ces paroles, elles ont été écrites peu de temps après la mort du Seigneur par Jacques, qui avait à ses yeux le télescope prophétique et il a eu ainsi une vision de notre 21e siècle. Il faut bien dire que depuis le début du siècle, les conflits sociaux n'ont pas cessé. Prix des denrées, salaires divers, etc. Quel est l'homme qui peut se lever à la face du monde et régler tous ces conflits? Cette importante question ne pourra être réglée aussi longtemps qu'il y aura une immense majorité d'égoïstes dans notre société. Il faut donc un changement de cœur de la part de tous. Qui pourra opérer ce changement, ce miracle, sinon le Seigneur Jésus-Christ? Voyez-vous? Jacques ajoute, « Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. » Et encore, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Mais écoutez la suite, elle est magnifique. Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Écoutez un peu. Soyez donc patients, frères, et j'ajoute mes chères sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, elle est tombée sur l'Église primitive. Nous nous trouvons maintenant, croyez-le ou pas, au moment de la pluie de l'arrière-saison. Quelle pluie de bénédiction et de grâce! C'est le Saint-Esprit que Dieu envoie sur toute la surface de la terre en vue de préparer la moisson pour l'avènement du Seigneur Jésus. Je connais un frère qui a reçu le don d'interprétation d'une façon très remarquable. C'est pas moi, évidemment. Mais il a pris la peine de contrôler ce que chaque enfant de Dieu disait en parlant en langue et il a constaté la chose suivante, qu'il y avait environ 66% de ces parlés en langue qui ont annoncé que le Seigneur est proche. Le Saint-Esprit rend témoignage que Jésus revient bientôt. Soyons donc patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Conservons précieusement cette promesse. Elle est prête de se réaliser. Le monde est actuellement en ruine. Il attend un homme pour régler ses affaires. On attend un surhomme. Et on s'aperçoit qu'il y en a deux. Ah oui, un pour perdre ce monde et l'autre pour le sauver. Celui qui vient pour le perdre, c'est personne d'autre que l'Antéchrist. Apocalypse, chapitre 6, versets 1 et 2. Voyez de quelle façon il se présente. Il est la contrefaçon exacte du véritable qui partit en vainqueur et pour vaincre. Il y aura donc malheureusement, avec le retour du Seigneur ici-bas, l'avènement de l'Antichrist, le fils de la perdition. C'est pas moi qui le dis. Ce fils mettra tout en œuvre pour perdre le monde. Mais, que Dieu soit béni, il y aura aussi le Christ. Voici donc maintenant le véritable, après le contrefacteur. Apocalypse, die Offenbarung, chapitre 19, versets 11 à 18. Et puis, j'ai vu, tout à coup, le ciel ouvert. Et voici apparu un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge, et il combat avec justice. Révélation, donc Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Nous insistons là à l'avènement du Seigneur Jésus en gloire pour établir son règne sur la terre. Voici ce qui arrivera lorsque Jésus reviendra ici-bas. Alors le roi régnera avec justice et les princes gouverneront avec droiture. Ésaïe, chapitre 32, versets 1 et 2. C'est exactement ce qui nous manque aujourd'hui dans ce monde. Après plus de 6000 ans d'expérience, nous sommes toujours régis par la loi du plus fort. Mais au retour de Jésus-Christ, il ne sera plus question du plus fort. Ce sera la justice qui triomphera totalement. Voyez les résultats. Alors, la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de justice sera la paix et le fruit de la justice sera la sécurité pour toujours. Ésaïe ou Isaïe, c'est la même chose, chapitre 32, versets 16 et 17. Voilà donc la sécurité internationale pour toujours. Quelqu'un peut-il affirmer parmi nos auditeurs être en sécurité dans sa maison totalement et toujours tranquille ici-bas humainement parlant? Moi, je vois une chose. J'ai été cambriolé deux fois dans mon appartement et la troisième fois, ils ont loupé leur coup. Mais croyez-moi, de plus en plus, ça se multiplie et les gens ont beau mettre des alarmes de toutes les couleurs et de toutes les sortes, eh bien, ils sont attaqués même en plein jour, au milieu d'un bus ou d'un tram ou d'un train. Quand Jésus sera de retour, nous serons en sécurité dans nos maisons et nous aurons un sûr asile. Arrivons maintenant à Ésaïe, chapitre 35, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. C'est très beau cela. Il faudrait le dire un peu mieux que je l'ai dit. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et elle fleurira. Et cela comme ce merveilleux bouquet de narcisses. C'est merveilleux. Les autorités agronomes, ils annoncent que d'ici peu, il pourra y avoir des famines sur toute la terre. Voyez-vous, le Seigneur y trouvera un remède, oh oui. Qui sait si le Sahara ne sera pas alors couvert de vergers et de champs de blé. Pour terminer, arrêtons-nous un peu à Ésaïe 65, verset 20. Là, il est dit, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de se faire teindre les cheveux, bien sûr que non, car ils ne blanchiront plus, ils n'auront pas le temps de blanchir. Il ne manque pas de braves ouvriers économes qui construisent une maisonnette en pensant y passer leurs vieux jours. Mais la mort les frappe souvent bien avant. Ce sont les enfants qui jouissent généralement du travail de leurs parents. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui plantent les vignes et leurs petits-enfants qui en mange les fruits. Mais voyez-vous, en ce temps-là qui va venir, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre ou des autres les habitent, car ils planteront des vignes et ils en mangeront eux-mêmes les fruits. Les guerres successives ont fauché les jeunes à la fleur de l'âge, et les maladies les plus en plus nombreuses privent les parents de leurs enfants. Quand Jésus régnera sur la terre, il n'aura pas des enfants pour les voir périr, oh non, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ésaïe 65, verset 23. Tel est le programme divin. Puissions-nous, chers amis, nous y soumettre en attendant celui qui viendra des cieux pour établir toutes choses. Avant de terminer, j'aimerais encore dire quelque chose au sujet du pardon. Parce que c'est important, le pardon. On oublie parfois. Eh bien, voyons cela un peu de plus près. Premièrement, le pardon n'est pas pour le bien de celui qui est mort ou qui est au loin. C'est de votre versant de la relation qu'il s'agit. Vous devez pardonner pour votre propre bien. Permettez-moi de vous rappeler une chose que je dis souvent. Le pardon n'est pas une émotion, mais c'est une décision. C'est pas pareil. Je répète, le pardon n'est pas une simple émotion, mais c'est une décision. Ne dites pas « je ne peux pas ». À dire vrai, il s'agit plutôt de « je ne le ferai pas ». Mais si vous dites « je ne le ferai pas », vous pouvez aussi dire « je le ferai », non ? C'est un premier pas. Ensuite, vous devez pardonner à tous ceux qui vous donnent le sentiment de vous avoir rejeté. Deuxièmement, défaites-vous de l'amertume, du ressentiment, de la haine et de la rébellion. Ces quatre réactions, qui sont si fréquemment le cortège du rejet bien enraciné. Et troisièmement, acceptez le fait d'être accepté en Christ et d'être accepté par Dieu. Permettez-moi de souligner encore une fois que cela ne signifie pas qu'il ne fait que vous tolérer, car il vous aime. Il s'intéresse à vous. Il se préoccupe de vous. J'ai dit cela à je ne sais combien de jeunes dont le visage s'est tout à coup illuminé à ces paroles. Et quatrièmement, il ne vous reste qu'une chose à faire, et ne l'oubliez pas, vous devez vous accepter tel que vous êtes. C'est parfois la chose la plus difficile. Je dis aux enfants de Dieu de ne pas se dévaloriser ni se critiquer, parce que vous êtes l'œuvre de Dieu. Il peut y avoir une jeune fille qui a des cheveux roux, on appelle cela une rouquine, mais cela est magnifique, beaucoup plus beau que toutes les teintures qui imitent cela et n'y arriveront jamais. Et quatrièmement, il ne vous reste qu'une chose à faire, et ne l'oubliez pas, vous devez toujours avoir le sens que le Seigneur vous aime. Car le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi pas autrement ?» Romains chapitre 9, verset 20. Ce n'est pas à vous d'agir ainsi. Dieu sait ce qu'il fait. Donc contentez-vous de lui faire confiance. En tant que chrétien, l'autocritique dévalorisante ne présente pas une forme d'humilité, pas du tout. Ça, c'est plutôt de la rébellion. Ne vous dépréciez jamais. Vous êtes la création de Dieu, vous êtes son chef d'œuvre auquel il a consacré le plus de temps et d'attention parmi tout ce qu'il a créé dans l'univers. Vous êtes au sommet de la liste. Si cela ne vous procure pas un sentiment de bien-être, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Chers amis, obtenez votre libération. Maintenant que nous avons exploré les différents aspects du rejet, je voudrais vous inviter à vous en libérer totalement. Il s'agit peut-être d'un domaine de votre vie auquel vous n'avez pas été confronté auparavant, et à présent le Saint-Esprit a mis à nu quelque chose que votre esprit refusait de reconnaître. Si le Seigneur vous a révélé que vous devez être libéré du rejet, et si vous aimeriez entreprendre une action pratique, je vous exhorte vivement à prononcer à voix haute les paroles suivantes. Et si vous commencez à sangloter ou que des larmes vous viennent, ne vous retenez pas. Vous ne pourriez pas vous payer une telle expérience, même pour un millier d'euros. C'est pour cela, terminons ensemble par la prière, mais je voudrais ajouter quelque chose qui me vient à l'idée. On me demande des fois, mais monsieur, ceux qui ne parlent pas en langue, etc., etc., est-ce qu'ils iront quand même au ciel? Mais, mes chers amis, Dieu est amour. Je voudrais vous dire quelque chose. J'avais, il y a encore environ 15 ans, j'avais plus de 6000 livres d'hommes de Dieu célèbres du 18e et du 19e siècle qui ne parlaient pas en langue, mais qui ont écrit des commentaires bibliques tellement fabuleux et des livres d'études bibliques tellement extraordinaires. Et ces hommes et ces femmes n'ont jamais parlé en langue. Donc, sachez-le, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté la main tendue de Jésus-Christ parce qu'ils ont compris qu'ils étaient perdus, ce qui m'est arrivé à moi également, eh bien, croyez-moi, ils sont sauvés pour l'éternité. Et il n'y aura pas au ciel première classe, deuxième classe, troisième classe, rien de tout ça. Soyez-en assurés. Donc, ne faisons pas la guerre, les uns, ou des guéguerres, hein, vous dites en français parfois, des petites guéguerres, hein, entre les uns et les autres. Non, non, non. Aimons-nous les uns les autres? Est-ce que vous croyez que toutes les personnes qui font partie de l'armée du salut parlent en langue? Je ne crois pas. Peut-être quelques-uns, mais ils savent quelque chose de beaucoup plus important que de parler en langue. C'est leur fondateur qui leur a inculqué cela. You are saved to serve the Lord. Vous êtes sauvés pour servir le Seigneur, pour le servir n'importe où, partout. Sauvés pour servir. Avez-vous compris? Donc, aimons-nous les uns les autres et ayons du respect les uns pour les autres. Pour l'instant, je dois vous dire une vérité, moi non plus. Pour l'instant, bien que je suis d'un âge certain, je ne parle pas en langue. Mais je suis absolument sûr que j'ai le Saint-Esprit qui est avec moi. Et quand je commence, avant de commencer, une étude telle que j'en ai fait des centaines et des centaines, vous pouvez vérifier sur le site internet, je crois, je ne possède pas internet, mais je crois que c'est www.bibleexplique.ch, quelque chose comme ça. Et vous verrez une quantité gigantesque d'études bibliques que le Seigneur m'a aidé à faire. Et il m'a aidé quand je priais chaque fois avant de commencer, que le Saint-Esprit s'empare de moi, de mon esprit, me dirige et qu'il me guide et plus que cela, qu'il m'inspire. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit est avec vous. Qui que vous soyez, né de nouveau, le Saint-Esprit est avec vous. Prions ensemble. Père, je pardonne. Je dépose mon amertume, mon ressentiment, ma haine et ma rébellion. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir accepté en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Le ciel est ma maison. J'appartiens à la meilleure famille de l'univers. Un sang royal coule dans mes veines. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin qui mène à lui. Tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu es ressuscité des morts. Je me repens de tous mes péchés et je pardonne toute personne comme j'aimerais que Dieu me pardonne. Je pardonne maintenant à tous ceux qui m'ont rejeté et blessé ou qui ont manqué d'amour envers moi. Dieu, je les pardonne tous. Oui, je désire de pardonner absolument à tous maintenant. J'ai confiance en ton pardon et je crois, Seigneur, que tu m'acceptes maintenant tel que je suis en Christ. Je suis accepté, je suis éminemment privilégié, je suis l'objet de ton attention particulière. Tu m'aimes vraiment, tu désires m'avoir avec toi. tu es mon Père. Oui, Seigneur, je veux te remercier. Et je veux te dire encore une chose. Je m'accepte en Christ tel que tu m'as créé, même avec des oreilles décollées. Je suis ton œuvre. Je te remercie pour ce que tu as fait. Je crois que tu as commencé une bonne œuvre en moi et que tu la mèneras à bien pour le jour de Christ le Seigneur. Je me libère de toute pression ténébreuse et mauvaise. Je libère mon esprit pour me réjouir en toi. Tout cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis, car Dieu vous aime et je vous aime également de tout mon cœur. À demain matin, Dieu voulant, et je voulais dire, bon, je n'ai pas les oreilles décollées, mais par contre, j'ai vu mon grand âge, de l'arythmie qui n'est pas toujours sympathique. Mais je fais confiance au Seigneur, jour après jour. Il me reprendra quand il l'aura décidé, quand il estimera que j'ai fait ce qu'il fallait faire. À bientôt, mes chers amis. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir.